Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Présenté par Belinda Bosuma, voici le sommaire. Rentrée scolaire et académique 2024-2025, le président Tshisekedi encourage la consolidation et la pérennisation du dialogue social entre toutes les parties prenantes pour une rentrée apaisée. Le chef de l'État l'a dit hier lors du 3e conseil des ministres du gouvernement souminois. Kanyabayonga, dans le Nord Kivu, passé sous le contrôle du M23 depuis hier après-midi. C'est après des violents combats toute la journée d'hier entre l'armée et ses rebelles soutenus par le Rwanda. On signale à nouveau un déplacement massif des populations en quête des lieux sécurisés. Et puis, la RDC totalise 64 ans d'indépendance demain 30 juin. À cette occasion, l'historien Samuel Tshijuké revient sur l'état de Kananga, ville que les colonisateurs belges avaient choisie pour être la capitale de la RDC. Pour en parler, nous recevons l'historien Samuel Tshijuké, donc professeur émérite. Madame, Messieurs, bonjour. Le président de la République encourage la consolidation et la pérennisation du dialogue social entre toutes les parties prenantes en prévision d'une rentrée scolaire et académique apaisée. Félix-Antoine Tshisekedi l'a dit hier vendredi au cours du 3e conseil des ministres du gouvernement souminois. Il a réaffirmé que l'éducation demeure une priorité du gouvernement et a appelé à la consolidation de la gratuité de l'enseignement. On écoute un extrait du conseil des ministres lu par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya, extrait proposé par Alain Rongmouchinj.
L'éducation demeurant une priorité du gouvernement, le président de la République encourage la consolidation et la pérennisation du dialogue social avec toutes les parties prenantes en prévision de la rentrée scolaire et de la rentrée académique prochaine. Et ce, pour permettre l'accès de tous les élèves et étudiants à une éducation de qualité dans le respect de leur calendrier respectif. En ce qui concerne l'enseignement primaire, il a insisté pour que les efforts consentis pour la gratuité se poursuivent afin d'améliorer la qualité et la gouvernance des établissements scolaires, en plus de l'accessibilité accrue d'élèves générés par ces programmes. À cet effet, a-t-il instruit toutes les infrastructures dont la construction est terminée dans le cadre du PDL 145 territoires et autres doivent être livrées aux bénéficiaires sur toute l'étendue de la République. Au sujet de la formation professionnelle, le président de la République a martelé qu'elle requiert la mise en œuvre des stratégies appropriées pour produire la main-d'œuvre utile aux entrepreneurs et donner plus d'emplois aux Congolais.
Notez que le chef de l'État a aussi fustigé la spoliation du patrimoine immobilier de l'État, notamment à Kinshasa, tout en appelant les ministres sectoriels à suivre de près cette question. Il annonce l'organisation prochaine des États généraux du patrimoine de l'État. Dans l'actualité aussi, le gouverneur du Haut-Katanga et celui de la ville-province de Kinshasa interdit de présenter leurs programmes respectifs devant les assemblées provinciales. Dans un télégramme signé vendredi 28 juin, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur, sécurité, décentralisation et affaires coutumières instruit toute affaire cessante les deux gouverneurs à se présenter lundi 1er juillet à son bureau. Les détails avec vous, Noéla Luzitukabambi.
Le message du vice-premier ministre Jacquemain Chabani intervient au lendemain de la publication par le gouverneur Kiabula du Haut-Katanga de la liste des membres composant son gouvernement, une équipe constituée de 10 ministres et de 10 commissaires généraux. Mercredi dernier, c'est le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, qui a publié son équipe gouvernementale avec 10 ministres et 10 commissaires généraux. Si le motif de la décision du VPM n'est pas repris dans le message, les deux gouverneurs se seraient rendus coupables du non-respect de la loi en matière de désignation des membres du gouvernement provincial. La Constitution ne reconnaît pas en effet la présence des commissaires généraux au sein de gouvernements provinciaux. La semaine dernière, le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et sécurité a demandé aux gouverneurs réunis à Kinshasa de respecter l'effectif recommandé dans la formation de leur gouvernement.
Notez qu'à l'Assemblée provinciale de Kinshasa, alors que le décor était déjà planté pour la présentation du discours programme du gouverneur Daniel Bumba, celui-ci ne s'est pas présenté. Le bureau de l'organe délibérant a décrété un huis clos avant de suspendre la séance. Pendant ce temps, dans la Tchopo, le gouverneur de province tend la main de collaboration à la population en vue d'amorcer le décollage de cette province. Paulin Lendongolia l'a déclaré à l'occasion de sa prise de fonction hier après-midi à l'esplanade du cabinet du gouverneur à Kisangani. C'était en présence de plusieurs invités, aussi bien étatiques que religieux. Une foule nombreuse est venue également assister à cette cérémonie. Jacques Moukonkole, reportage.
Je connais vos besoins et vos attentes, a dit le gouverneur de province à l'entame de son propos après la signature des procès-verbaux de remise et reprise. Vous avez besoin de la paix et la sécurité, précise Paulin Lendongolia Lebabonga. L'électricité et l'eau devenues un luxe doivent être permanentes, a-t-il renchéri. L'ancien vice-gouverneur connaît bien la réalité de cette entité dépourvue d'infrastructures sociales et dignes de ce nom. Il promet de réhabiliter et de moderniser la voirie urbaine, des routes d'intérêt provincial et des dessertes agricoles. Il n'oublie pas non plus l'administration publique et tous les autres aspects du développement harmonieux de l'homme. Il s'engage également à œuvrer ensemble avec les autres institutions à créer de l'emploi et à régler pacifiquement les conflits de pouvoir coutumiers. Conscient de cette lourde charge et des défis qui l'attendent, Paulin Lendongolia appelle ses administrés à bannir les antivaleurs et à se mettre résolument au travail afin d'atteindre les objectifs assignés. Avant de recevoir des insignes de pouvoir coutumier de la Tchopo, il a pris la ferme résolution de travailler avec le vice-gouverneur Didier Lomoyo en parfaite harmonie. Jacques Moukonkole, Kisangani, Radio Okapi.
Direction le Nord Kivu. Je vous l'ai dit dans les titres, la commune rurale de Kanyabayonga dans le territoire de Lubero est passée sous le contrôle des rebelles du M23 hier après-midi. Nous sommes à une centaine de kilomètres de Lubero centre. Déjà jeudi, les localités de Miriki et Kimaka étaient passées aux mains de ces rebelles soutenus par le Rwanda. Selon des sources de la société civile sur place, des violents combats ont opposé toute la journée d'hier les FARDC au M23 aux alentours de la cité de Kanyabayonga. Cette dernière est finalement tombée en fin d'après-midi. Peu d'informations filtrent à l'heure qu'il est, mais ce que l'on sait, c'est que cette situation a provoqué un nouvel exode des populations en quête des lieux sécurisés. Pendant ce temps, le Conseil de sécurité de l'ONU, à l'unanimité de ses membres, décide de reconduire le régime de sanctions contre la RDC jusqu'au 1er juillet 2025 et de proroger le mandat du groupe d'experts chargé d'assister le comité des sanctions jusqu'au 1er août 2025. Décision annoncée hier vendredi à New York aux États-Unis. D'autres précisions avec vous, Alain Rungmushinj.
Le texte précise que sont reconduites les mesures sur les armes, les transports et les déplacements ainsi que les mesures financières imposées par la résolution 1807 en 2008 à l'exception de l'obligation de notification du transfert d'armes et de matériel connexe à la RDC qui a été supprimée par la résolution 2667 en 2022. Ces sanctions ne s'appliquent pas aux forces loyalistes, indique l'ONU sur son site officiel. Les sanctions continuent de s'appliquer à toutes les personnes et entités non gouvernementale menant des activités sur le territoire de la RDC. À propos des armes, l'ONU rappelle que les sanctions ne concernent pas le gouvernement. De même que l'obligation de notification, l'embargo sur la fourniture de matériel et d'assistance militaire ne s'applique pas aux forces armées ni aux forces de sécurité du gouvernement de la RDC, comme indiqué par le Conseil dans sa résolution, précise le site de l'ONU.
Et puis, le président de la République démocratique du Congo doit nommer un conseiller spécial en matière de sécurité à l'Est. C'est pour faire face à la détérioration de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu. Ses propos sont de Eze Kanendu, député provincial honoraire et notable de la province du Nord Kivu. Selon lui, le chef de l'État n'a jamais eu des personnes capables de lui dire la vraie réalité dans la chaîne de commandement des troupes qui combattent les deux groupes terroristes sur le terrain. Eze Kanendu, joint par André Kitenge.
Nous devons mettre discernement dans les opérations militaires en territoire de Lubero. Actuellement, le territoire de Lubero est sous menace et agression de deux groupes armés terroristes. Les M23 du côté sud, notamment à Kanyabayonga et Miriki en groupement Itala. Et du côté nord, dans le secteur de Baper, les terroristes et DF. Mais la façon dont nous combattons ces groupes terroristes, le président de la République n'a jamais eu de personne capable de lui dire la vraie réalité dans la chaîne de commandement des troupes qui combattent sur terre. C'est pourquoi je demanderai au président de la République des chefs de l'État, dénommer un conseiller spécial en matière de sécurité à l'Est qui pourra suivre la conduite des opérations militaires et lui faire parvenir les informations à temps réel, si jamais il veut obtenir des informations couplées des pistes de solutions en vue de bouter hors état de nuire les rebelles qui écument la paix et la sécurité dans notre province.
Entre-temps, en Ituri, la vie reprend son cours normal dans plusieurs centres commerciaux dans les secteurs de Walendu-Tati et Baïma Nord dans le territoire de Djougou. Plusieurs marchés dont Dramani, Masumbuko et d'autres sont désormais opérationnels là où les communautés locales jadis en conflit ne fréquentaient pas à cause de l'insécurité. Constat fait vendredi par l'administrateur du territoire de Djougou à l'issue d'une mission d'évaluation des accords de paix signés le mois dernier dans cette entité. Un comité de pilotage du système d'alerte précoce est mis en place pour pérenniser ses acquis pour une paix durable dans la région, le compte-rendu de Ezekiel Mousalia.
Ces accords ont été signés au mois de mai dernier entre les notables, chefs coutumiers et leaders locaux du secteur de Walendu-Tati et Baïma Nord sous la facilitation du gouvernement provincial et la MONUSCO. Ils mettent un accent particulier notamment sur la libre circulation des personnes et leurs biens, la cessation des violences et le vivre ensemble, les gages du développement. Au cours d'une mission d'évaluation et de suivi de cette feuille de route, de nombreuses avancées ont été signalées. C'est entre autres la reprise du trafic sur les tronçons Drodro, Largou, Masumbuko, Paranganza, Lita, Katoto jusqu'à Kabunia. La rouverture de cette voie de communication a facilité la reprise des activités dans les marchés Dramani, Masumbuko ainsi que dans d'autres centres de négoces fermés à cause de l'insécurité. L'administrateur du territoire de Djougou encourage cette prise de conscience des leaders communautaires qui permet aux nombreux habitants de rentrer dans leur milieu. Le colonel Rufin Mapela.
Nous avons travaillé sur les points qui ont été réussis et nous avons trouvé une solution. Nous avions essayé de renforcer aussi les mentalités de ces deux communautés pour qu'ils puissent s'approprier ces dialogues qui portent des fruits.
Un comité mixte d'harmonisation et de pilotage du système d'alerte précoce avec à la tête l'abbé curé de la paroisse des Drodro est mis en place pour pérenniser les acquis de paix entre les deux communautés. Bounia, Ezekiel Mousalia, Radio Okapi.
Par ailleurs, les cas de violations et atteintes aux droits de l'homme en RDC ont baissé de 32% avec 35% des victimes au mois de mai dernier comparé au mois d'avril. C'est ce que note le bureau conjoint de l'ONU aux droits de l'homme à travers son communiqué publié jeudi sur les tendances des violations des droits de l'homme sur le territoire national. Le bureau conjoint affirme avoir enregistré et documenté 336 cas ayant fait 902 victimes. Selon le bureau, cette diminution reflète la réduction des violations et abus commis par les agents de l'État et par les groupes armés, tout en signalant la persistance des conflits armés. Jeff Ngoy.
Le BCNUDH dit avoir documenté en mai 268 violations et atteintes aux droits de l'homme dans les provinces affectées par le conflit armé, ce qui représente une diminution de 35% par rapport au mois précédent, dont le nombre était de 411 cas. Cette situation est due principalement à une diminution des violations commises par les agents de l'État, mais aussi à une diminution des atteintes provenant de principaux groupes armés. Toutefois, les affrontements dans la zone de Saki et territoire de Masisi persistent. En conséquence, on enregistre plusieurs déplacements des populations civiles. Une autre conséquence vient des combats à l'arme lourde et légère. Cette guerre touche la localité de Minova dans le sud Kivu. Les tendances du BCNUDH signalent également les cas de violences sexuelles liées au conflit sur des victimes adultes. Ces violences viennent d'augmenter le mois dernier par rapport à celui d'avril. Pour ces cas de figure, il faut noter au moins en revue 15 incidents de violences sexuelles liés au conflit ayant fait 42 victimes, comparativement au mois précédent avec 14 victimes. Les groupes armés en sont responsables à 90%.
64e anniversaire de l'indépendance de la RDC, Radio Okapi poursuit sa série de reportages amorcés à cette occasion. Comme ailleurs, la province de l'Équateur a certes bénéficié des biens coloniaux encore en service, infrastructures, services et autres, mais cet héritage colonial reçu au prix des mains coupées pour le caoutchouc et autres sévices reste soit mal exploité, soit mal sauvegardé dans plusieurs domaines. C'est l'analyse de Jean-Louis Efoloko, ancien ministre provincial du Plan, enseignant et expert en planification et en développement, des détails dans ce reportage de Paul-Richard Malengela.
Jean-Louis Foloko estime d'abord que les pouvoirs publics à l'Équateur n'ont pas capitalisé les lands de construction hérités de la colonisation.
Tous les bâtiments que nous avons datent d'avant l'indépendance. Je parle de l'Équateur et de quelques provinces. C'est le bâtiment d'Ingéné, le bâtiment de Bikoro, le Lukolela, la Sankusu, Mankanza et autres là. Ce sont des vieux bâtiments laissés par le colonisateur. Et si les 145 territoires, le projet PEDEL là, vient ajouter quelque chose, ce serait une première depuis 60.
Pour Jean-Louis Foloko, 64 ans après l'indépendance, la population équatorienne reste plutôt attentiste, moins productive. Cette mentalité est due au manque d'encadrement qui caractérisait le pouvoir colonial.
Quand nous étions enfants, le type là de l'hygiène, avec son chapeau rouge, quand il passait dans les quartiers, il trouve une boîte de tomates avec de l'eau, c'est-à-dire vous êtes en train d'élever des moustiques, on vous arrête. Mais actuellement, que tu fasses ceci ou bien cela, tout le monde regarde.
Sur le plan politique, ajoute-t-il, la RDC doit plutôt appuyer les ETD, entités territoriales décentralisées, en vue de la responsabilisation de sa population à la base. Enfin, pour inverser la tendance, Jean-Louis Foloko lance un appel particulier aux conseils communaux à se montrer courageux, afin de réclamer leurs droits, le changement à la base. Bandaka, Paul Chamalingela, Radio Okapi.
Actualité internationale. Les Nations Unies indiquent que 2023 a marqué le plus grand nombre de violations contre les enfants depuis près d'une décennie. Devant le Conseil de sécurité de l'ONU, Virginia Gamba, la représentante spéciale de l'ONU pour les enfants, a déclaré avoir vérifié 32 990 violations graves concernant 22 557 enfants en 2023. Gamba a précisé hier que ces violations comprenaient le meurtre et la mutilation d'enfants suivis du recrutement et l'utilisation d'enfants, le refus d'accès humanitaire et les enlèvements.
L'invité.
La RDC totalise 64 ans d'indépendance ce dimanche 30 juin. À cette occasion, l'historien Samuel Tijuke revient sur l'état de la ville de Kananga, chef-lieu du Kasaï central, province-ville que les colonisateurs belges avaient choisi pour être la capitale de la RDC. Mais que représente aujourd'hui Kananga, autrefois Luluabourg, 64 ans après l'indépendance? En effet, des bâtiments avaient été construits sur un modèle d'une capitale en devenir. Dans cette ville, la première constitution a même été élaborée. Professeur émérite, l'historien Samuel Tijuke, déplore le fait que cette ville est oubliée depuis plusieurs années pendant qu'elle représente beaucoup pour le pays. Il le dit dans cet entretien avec François Kadima.
Professeur Samuel Tijuke, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Parlons un peu de l'histoire de la ville de Kananga, cette ville qui a un lien avec l'indépendance, une ville qui devait être la capitale de ce pays.
Le Luabourg, actuellement Kananga, pour les Belges, ça devrait être la capitale du Congo belge, actuellement la République démocratique du Congo. Pourquoi ? Parce que le Luabourg est au centre de la RDC. De Luabourg à Stanleyville, actuellement Kisangani, c'est 1000 km. De Luabourg à Elisabethville, actuellement Lubumbashi, c'est 1000 km. De Luabourg à Lepolville, actuellement Kinshasa, c'est 1000 km. Donc d'une façon générale, Luabourg est au centre du pays. Pour les Belges, c'est ainsi qu'ils ont bâti des bâtiments en miniature de certains bâtiments administratifs de Kinshasa. Si vous voyez les bâtiments où siège le gouverneur de la province du Kasaï central, c'est un bâtiment en miniature du bâtiment de la fonction publique à Gombe. Il y a le complexe scolaire de l'Athénée Royal, c'est en miniature l'université de Liège en Belgique. Luabourg était compartimenté, il y avait des quartiers pour les Noirs et des quartiers pour les Blancs. Luabourg était prévu pour devenir la capitale.
À quel moment les choses ont changé? Parce que c'est une ville qui est restée un peu oubliée jusqu'à l'instant, même si nous avons des bâtiments qui ont été construits à cette époque.
Après l'accession de notre pays à l'indépendance, il y a eu le coup d'état de Joseph Désiré Mobutu en 1965. Les habitants du Kasaï occidental étaient dans l'opposition. Parmi eux, on peut citer André Guillaume Lubaya, qui était un grand fanatique. Le parti, c'est Emery Lumumba. Il s'était même réfugié à Stanleyville, à Kisangani. Mobutu a considéré les Kasaïens comme étant les opposants. C'est ainsi que nous n'avons pas pu bénéficier de cet avantage que Kananga devienne la capitale du Congo.
Que représente aujourd'hui cette ville? Est-ce qu'elle semble être abandonnée ou on peut encore espérer voir cette ville un jour devenir la capitale?
Pour le moment, la ville risque de disparaître à cause des érosions. Il y a beaucoup de têtes d'érosion et les Belges avaient fait autour de certains quartiers ce qu'on appelait les ceintures de sécurité pour canaliser les eaux. Mais au-delà des ceintures de sécurité, les gens ont construit en désordre, anarchiquement, avec la bénédiction des services de cadastre, des titres fonciers, d'urbanisme, sans tenir compte des normes.
La première constitution a été élaborée ici, considérant Lobourg comme une ville qui devait être le symbole ou la capitale du pays.
Oui, comme Kananga, ex-Lobourg, était au centre, c'est ainsi que, à l'époque du président Kasavubu, on a initié une commission pour élaborer la constitution à partir du centre de la République. C'était dans les complexes scolaires de l'Athénée Royal, là où siégeait l'Assemblée provinciale. C'est là où on a tenu la première constitution élaborée par des Congolais, ce qu'on appelle la constitution de 1964. C'est dans cette constitution-là où on avait adopté le nom actuel de République démocratique du Congo avec le drapeau actuel. Cette constitution n'a pas pu être mise en exécution avec le coup d'État de Mobutu en 1965.
Est-ce que au 30 juin, est-ce qu'on avait toujours l'idée que Kananga pouvait être la capitale de la RDC étant au centre du pays?
C'était vers 1958. Mais les Belges ne savaient pas qu'on allait nous donner l'indépendance d'une façon précipitée. Il existe des rapports où on mijotait à ce que Kananga devienne vraiment la capitale. Si vous voyez la résidence du gouverneur, c'est un bijou. Si vous voyez comment on a placé la mairie à quelques mètres de la banque centrale, tout ça c'était dans la configuration que Kananga devrait devenir un jour la capitale de la RDC Congo.
Professeur Samuel Tshijoké, nous vous disons merci.
Et par ici prend fin ce journal. Merci de l'avoir suivi.